Bonsoir et bienvenue dans cette émission. COP26, la RDC, vu ses richesses naturelles, se présente comme pays solution à la crise climatique mondiale. Propos de Félix Tshisekedi, président de la RDC, dans son message à marge de la 26e conférence des Nations Unies pour le climat à Glasgow en Écosse. Le chef de l'État congolais appelle tous les leaders du monde à travailler ensemble pour la sauvegarde des richesses naturelles de la RDC. Le président Tshisekedi et le premier ministre britannique ont par la même occasion, dans le cadre de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, le CAFI en sigle, signé un engagement de 10 ans pour protéger la forêt de la RDC. En signant cet accord, les deux parties s'engagent à militer en faveur d'une gestion durable des forêts en RDC et en Afrique centrale. Quelle est-il faire de la déclaration du chef de l'État Félix Tshisekedi à Glasgow? C'est l'objet de l'émission de ce soir. Et nous recevons René Ngongo, il est expert sur les questions environnementales et vice-président de l'ONG Organisation Concertée des écologistes et amis de la nature océan en sigle. Bonsoir monsieur René Ngongo. Jean Mangalibi, coordonnateur de l'ONG Les Amis de la Nature et des Jardins. Bonsoir monsieur Jean Mangalibi. Apparemment lui non plus n'est pas encore là. Luc Loutala, président de l'ONG Espoir pour tous, c'est une ONG impliquée dans les reboisements à Kasangulu dans les Congo central. Bonsoir monsieur Luc Loutala.
Bonsoir monsieur.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Merci beaucoup.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocafi.net.
La République démocratique du Congo, mon pays avec ses massifs forestiers, ses tourbières et ses ressources en eau et en minerais stratégiques, se présente comme un pays solution à la crise climatique. La déclaration est de Félix Tshisekedi. Le chef de l'État s'est ainsi exprimé mardi dernier devant des dirigeants du monde réunis à la 26e conférence des Nations Unies pour le climat à Glasgow en Écosse. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le président Tshisekedi a rappelé qu'il a lancé récemment les plans de relance verte pour l'Afrique. Selon lui, ces plans visent à renforcer les mesures en faveur de la viabilité de l'environnement et de la prospérité sur le continent. Fidèle à ses ambitions, la RDC a pris un certain nombre de résolutions que le chef de l'État décline dans cet extrait que nous propose Félix Kipela Mondo.
Accroître notre contribution déterminée au niveau national en la portant à 21% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Lancer un programme visant à planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Élargir notre mix énergétique en combinant l'hydroélectricité, le solaire, la biomasse, etc. Le plan national stratégique de développement ainsi que les politiques publiques sectorielles qui en découlent se fondent sur cette vision. Par ailleurs, la protection des droits des communautés locales et des peuples autochtones est capitale. Nous nous engageons à en tenir compte dans notre stratégie d'industrialisation, d'investissements agricoles et dans la gouvernance forestière. La réorientation envisagée des productions agro-industrielles vers des zones savanicoles, c'est-à-dire hors des zones forestières et des tourbières, cristallise la volonté claire de mon pays à conserver les forêts des communautés locales et à garantir les droits des peuples autochtones.
René Ngongo, expert sur les questions environnementales et vice-président de l'ONG, Organisation Concertée des écologistes et amis de la nature océan en sigle. Est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Voilà, bonsoir monsieur René Ngongo. D'abord, quel sens vous donnez à cette initiative des Nations Unies d'organiser chaque année cette conférence sur le climat?
Oui, je crois que c'est une tradition qui date de plus de 26 ans. Après la signature de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, toutes les parties prenantes, dont les 196 États parties, se retrouvent chaque année pour évaluer les efforts qui sont fournis en termes de réduction des émissions. Et pour moi, le couronnement a été à la COP21 de 2015 où toutes les parties ont signé l'accord, dit accord de Paris, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Donc c'est une très belle initiative qui associe toutes les parties prenantes non seulement les États, mais aussi les associations et tous les acteurs qui jouent un rôle important dans la sensibilisation contre le climat.
Belle initiative, comme vous le dites, à laquelle la RDC se présente comme un pays solution. Et le chef de l'État a mis en exergue le potentiel que regorge la RDC, ses massifs forestiers, ses tourbières et ses ressources en eau et en minerais stratégiques. Monsieur Renaud Ngongo, comment, de manière concrète, ces potentiels qui ont été présentés par le chef de l'État dans son discours, peuvent-ils être gérés pour contribuer effectivement à la transition écologique?
C'est d'abord par les lois. Je pense que la République démocratique du Congo, depuis pratiquement 2002, a mis en place une panoplie de lois pour gérer nos ressources, que ce soit forestières, que ce soit les ressources minières. Vous rappelez tous les débats sur la révisitation du code minier, avec un accent sur les questions environnementales, la loi sur les hydrocarbures, la loi sur l'environnement. Donc, il y a eu cette panoplie de lois qui ont été vraiment adaptées aux réalités actuelles. D'ailleurs, si on est en train de revisiter les projets de revisiter les codes forestiers, c'est pour l'adapter aux enjeux de l'heure. Parce qu'en 2002, les questions climatiques n'avaient pas assez d'espace dans les codes forestiers. Donc, ça reste la meilleure manière d'améliorer la panoplie des lois et de mettre ces lois en application. C'est vrai que au-delà des lois, il faut des moyens, parce que la loi demande qu'il y ait un contrôle forestier et les services de l'administration doivent être à la hauteur. Donc il y a les lois qu'il faut aménager en fonction de l'objectif de gérer durablement la ressource, mais il faut des moyens. C'est pour ça que ce discours de haut niveau qui a été prononcé il y a deux jours par les chefs de l'État tombe à propos, parce que il a, comme vous l'avez dit, il a présenté la RDC comme le pays solution aux questions qui minent la planète aujourd'hui, les questions des changements climatiques.
À ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, j'ai récemment lancé les plans de relance verte pour l'Afrique qui visent à renforcer les mesures en faveur de la viabilité de l'environnement et de la prospérité en Afrique. Il s'agit notamment d'accroître sa contribution déterminée au niveau national à 21% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, a dit le chef de l'État dans ses discours à Glasgow. Monsieur René Ngongo, réduire les émissions de gaz à effet de serre signifie également abandonner les énergies fossiles, le charbon, gaz, pétrole, au profit des énergies renouvelables, l'hydroélectricité, le solaire, la biomasse. Est-ce que vous pensez que la RDC est prête aujourd'hui à s'engager de manière active dans cette transition?
Bien sûr, la preuve, c'est que vous avez au niveau du cabinet de l'État une agence pour la transition écologique, l'ACTED. Ça traduit cette volonté d'aller rapidement vers la transition écologique, dans laquelle vous trouvez évidemment un grand axe, c'est la transition énergétique. Le pays est engagé, je pense que vous suivez, vous et moi, les efforts avec la réhabilitation des barrages. Il y a quelques semaines, j'étais à Lubumbashi dans le cadre du Forum national sur les énergies. Nous avons visité les barrages de Mwadingusha qui a été totalement réhabilité. Ça, c'est des efforts. Et on voit, on parle des KTND, de toutes sortes de barrages. Il y a cette volonté. Et vous avez suivi tous les débats autour de Inga. Ça, c'est la volonté d'aller vers le passage de la transition énergétique en diminuant de plus en plus les énergies fossiles pour mettre en valeur les énergies renouvelables qui sont propres, qui émettent presque pas d'émissions de gaz à effet de serre, comme les ferrets, les énergies fossiles qui sont responsables en grande partie du réchauffement de la planète. Et au-delà des énergies, monsieur le journaliste, vous avez actuellement tous les débats sur les voitures électriques. C'est des voitures qui vont plus utiliser les combustibles fossiles comme le pétrole ou le gaz, le mazout ou l'essence. Ça va utiliser plutôt les batteries. Et ces batteries, encore une fois, la solution se trouve en République démocratique du Congo, avec les lithium que nous produisons, les cobalt, les cuivres, qui sont des ingrédients indispensables pour les batteries. Et vous suivez la COP, d'ici 2035, ça va être difficile de trouver sur les marchés européens, en tout cas les véhicules à mazout.
Merci, Monsieur René Ngongo. Nous vous gardons encore dans cette émission. Jean Mangalibi, vous êtes coordonnateur de l'ONG Les Amis de la Nature et des Jardins. Vous aussi, un mot au sujet de l'initiative prise par les Nations Unies d'organiser chaque année cette conférence sur le climat.
Bon, merci d'abord pour la parole. Il y a une conférence sur le climat chaque année, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas que ça devienne une routine. Ça, c'est un de deux. La manière de gouverner aussi des nations, c'est pas avec des slogans, ce sont des actions concrètes où on doit commencer à palper. Aujourd'hui, ça, c'est le 26e sommet. On va se rendre compte que les pays dits, les pays de tiers-monde, entre guillemets, n'ont jamais profité de tout ce qu'ils parlent comme fond. Alors, face à cela, il y a, je prendrai l'exemple simple. J'ai suivi dans le programme des 3P, Personne et Prospérité Planète. Ils ont encore mis l'accent sur les vaccins face au Covid. Or, je crois, lors d'un des discours du président, qu'on doit déjà évoquer ce point-là, parce qu'aujourd'hui, si l'économie mondiale est déstabilisée, c'est à cause de cela. Une pandémie qui est en train de bloquer carrément la planète, où on a du mal à travailler. Ça fait assez que l'RDC a des solutions, et le président l'avait dit depuis. Mais est-ce qu'il tient compte des avis ou des propositions des pays qui parlent des pays de tiers-monde? Or, aujourd'hui, face à la pandémie, on a montré que nous, on était à la hauteur de se protéger et qu'on n'avait pas besoin de vaccins. Mais aujourd'hui, on cherche à imposer le vaccin au niveau planétaire. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, l'abeille, même Einstein l'avait dit, le jour où l'abeille va disparaître de la planète pendant 4 ans, la planète n'existera plus. Aujourd'hui, avec nos forêts, si on change le statut des fabricants de braises en élevant l'abeille, vous allez voir que nos forêts vont être préservées. À ce moment-là, nous serons à mesure. Ça, c'est un de deux. Le deuxième élément, c'est quoi? Nos autorités doivent arrêter avec le système de la mendicité. Parce que, comment voulez-vous assurer qu'un pays, qui est la deuxième réserve stratégique mondiale, nous avons un budget de moins de 10 milliards de dollars? C'est ridicule. Tant qu'ils ne vont pas réfléchir sur la production, comment valoriser ce que nous avons? Les réserves que nous sommes, ce n'est pas par rapport au Congo, c'est par rapport à la planète. À ce moment-là, les travaux intellectuels du Congo va devoir aider la planète.
Monsieur Jean Mangalibi, vous dites que nous devons cesser avec ce système de mendicité. Bon, je ne sais pas ce que vous appelez système de mendicité. Je pense que c'est le fait que chaque fois quand il y a COP, nous y allons, n'est-ce pas, avec des demandes, des doléances, des exigences. Mais s'il ne faut plus exiger de la part de cette communauté internationale de l'assistance, n'est-ce pas, pour nous permettre de préserver notre forêt qui est le deuxième poumon du monde. Quelle est l'alternative pour que ces populations qui vivent de cette forêt-là ne puissent pas se sentir lésées, ne puissent pas être préjudiciées?
Mais ils sont lésés parce que le Congo n'a pas des institutions fortes. Un exemple simple, tu as vu la manière dont on est en train de terminer la forêt urbaine au niveau de la ville de Kinshasa. Là, il y a le gouvernement national et le gouvernement central. Le problème, c'est nous. Pour des pareilles conférences, nous y allons. Mais nous devons mettre un programme assez solide, cohérent, parce que il faut aller à l'intérieur voir. La population est ignorante de beaucoup de choses. Et qu'il faut remettre la population à niveau. Nous avons des vieux qui avaient la sagesse que nous sommes en train de négliger aujourd'hui. Apprenons la population aujourd'hui, parce que je parle les camps par rapport à l'agriculture. Est-ce que nous devons aller mendier pour faire l'agriculture chez nous? Pendant que nous avons les sols arables, je prends le cas d'Israël aujourd'hui, qui est dans le désert. Il y a de cela 5 ans, les vins vendus en Israël valaient le budget du Congo. Parce que les vins vendus faisaient partie maintenant de 5 milliards de dollars l'an qu'ils jetaient. Or, le budget du Congo était de 5 milliards de dollars. Tant que nos autorités ne vont pas comprendre que nous avons besoin de l'aide extérieure, mais ça ne doit pas être une obligation ou ça ne doit pas être une nécessité, pour que nous arrivions à travailler réellement pour changer notre pays.
Merci. Ok, merci. Luc Loutala, président de l'ONG Espoir pour tous. Vous êtes impliqué, n'est-ce pas, dans les reboisements à Kasangulu, au Congo central. Un mot aussi par rapport à cette initiative des Nations Unies qui consiste à organiser cette conférence sur le climat chaque année.
Merci beaucoup. D'abord, petite rectification. Nous sommes impliqués dans un projet qu'on appelle les éco-villages à Kasangulu. Donc ça prend le volet développement durable et environnement, donc reboisement agroforestier. Bon, maintenant, pour revenir à cette question de COP, la COP, en fait, c'est la conférence des parties, comme on l'appelle, conférence des parties. Et donc, comme ça a été dit par René Ngongo, on est à la 26e année, hein, avec la 26e COP. Et donc, si on est à la 26e COP, ça veut dire que les États ne sont pas encore arrivés à trouver la solution aux problèmes de base qui se posent. Et que le monde contemporain fait face à deux problèmes majeurs. Le problème de extrême pauvreté, notamment pour les pays du Sud, et donc de fragilité entre le Nord, l'Occident et le Sud. Et il y a le problème de changement climatique, avec hausse des températures, fonte des glaces. Le problème, il se pose en ce sens-ci, que, en réalité, la pollution planétaire est l'œuvre des pays du Nord, qui sont industrialisés majoritairement, donc.
Justement, Monsieur Luc Loutala, il est de notoriété publique que les grands pollueurs, c'est les grandes puissances de ce monde, mais on nous demande aussi, nous, les pays en voie de développement, de pouvoir fournir beaucoup d'efforts pour contribuer, n'est-ce pas, à la réussite de cette transition écologique. Et quel pourrait être l'impact des efforts si réellement nous nous engageons de façon active, nous, les pays en voie de développement, si nous nous engageons dans cette transition, quel pourrait être l'impact, n'est-ce pas, de nos efforts à partir du moment où les grandes puissances, les grands pollueurs, et on a suivi la déclaration récemment lorsqu'ils se sont réunis à Rome, en Italie. À partir du moment où ces grandes puissances ne semblent pas être disposées, n'est-ce pas, à abandonner ces énergies fossiles, notamment le charbon. Et c'est vrai qu'ils ont pris la décision de ne plus financer les centrales de charbon à l'étranger, mais ils vont les faire chez eux. Et il y a même des projets, beaucoup de projets, pour continuer à exploiter ces centrales chez eux. Alors, c'est quoi l'impact des efforts que nous, les pays pauvres, nous pouvons fournir aussi longtemps que les grands pollueurs ne s'impliquent pas comme il se doit pour, n'est-ce pas, réduire les émissions de gaz à effet de serre?
Justement, c'est à cela que j'allais arriver. Et la question, elle est pertinente parce qu'elle anticipe sur ce que j'étais en train de dire. Et donc, les COP, en fait, se situent comme des marchés de la stabilité planétaire. Et les COP ont beaucoup plus focalisé, comme l'a dit René, sur les accords sur le climat, où on retrouve les grands pollueurs, les pays du Nord, avec les pays du Sud, qui eux, notamment on a le Brésil, il y a trois poumons, hein, le Brésil, le Bornéo-Mékong et puis la République démocratique du Congo, et le bassin du Congo se trouve être le deuxième puits carbone, hein, parce que il faut pas oublier que ça stocke autour de 600 000 tonnes de carbone, et on venait de découvrir encore les tourbières depuis 2014, les tourbières qui à elles seules stockent autour de 30 milliards de tonnes de CO2, hein, qui font 30 milliards, ça fait autour d'une année, hein, de tout le CO2 qui est émis par la planète et qui est capté. Et donc le vrai problème, il se pose à ce niveau ici. Comment faire en sorte que les pays qui ont encore de ce qu'on appelle des puits carbone, qui stabilisent en fait le climat, qui absorbent les CO2, ne les entament pas, notamment on a les trois bassins, mais en même temps comment faire à ce que les États pollueurs arrivent à ce qu'on appelle la neutralité carbone. Et donc, il y a ces efforts-là, parce qu'il faut se rendre compte que pour les pays du Sud, les puits carbone, c'est en fait des ressources naturelles qui peuvent concourir au développement de ces pays-là. Et les pays du Nord sont pleinement conscients de ça, que en fait, les forêts que nous avons, les mines que nous avons, c'est ce qu'ils ont toujours utilisé pour se développer. Maintenant, les pays du Nord nous demandent à nous de ne pas utiliser ça. Et donc, il y a eu depuis un certain nombre d'années, c'est qu'on a eu le financement pour le climat. Ça veut dire les bailleurs de fonds, et quand on parle des bailleurs de fonds, il faut se dire il y a les grandes entreprises mondiales, il y a les systèmes des Nations Unies, il y a les pays, et il y a les ONG qui se retrouvent et qui disent non, il faut donner de l'argent, il faut financer les efforts pour que les États du Sud, en fait, conservent les puits carbone, notamment, c'est tout ce qui fait l'histoire des moratoires et des négociations. Et moi, je voulais quand même en revenir là-dessus, pour dire qu'en fait l'ECAP c'est un terrain de négociation pour voir en réalité comment est-ce que les entreprises et les États du Nord qui tirent, qui ne peuvent pas vivre sans polluer et qui sont obligés de faire la transition écologique. Quand nous parlons des transitions écologiques, nous devrions être assez réalistes pour voir que nous, ici, on n'a pas assez d'usines pour faire des transitions écologiques.
Justement, M. Luc Loutala, vous dites, vous affirmez que le COP, c'est un terrain des négociations. Et on a vu la RDC cette fois-ci qui s'est présentée à cette COP 26 comme un pays solution en présentant, n'est-ce pas, les potentiels dont le monde a besoin pour que la transition écologique puisse réussir. Est-ce que vous pensez que les arguments de la RDC suffisent pour convaincre les partenaires?
La première chose, c'est que, et ça il faut le saluer, beaucoup plus que pour les COP antérieures, cette fois-ci la RDC a mis les moyens sur sa communication. Et il faut dire que on a entendu la voix de la RDC avec un slogan qui était tout à fait particulier, et sur le terrain de l'amour propre, de ce qu'on appelle l'intérêt de prestige, je crois que les Congolais, tout le monde confondu, ils sont un peu contents, on a notre chef d'État qui a parlé, on a une diplomatie qui a été agissante. Ça c'est un, bravo pour ça, pour la diplomatie. Bon, maintenant, votre question, elle devient très intéressante ici. Dans ce sens que quand on entre maintenant, et il faut y entrer, on entre pour examiner l'argent que l'on obtient des instances internationales. Comment est-ce que cet argent, en réalité, arrive aux communautés locales? Qui sont les bénéficiaires de cet argent? Bah, posons la question de cette façon. Qui, en fait, va bénéficier de cet argent qui est donné à titre de compensation, si tu veux, parce que maintenant, les États ont carrément, les États du Sud ont carrément demandé que ce ne soit plus un crédit, mais que ce soit carrément de dons, de subventions qui soient données, donc qui ne soient pas remboursables. Bon, maintenant, qui bénéficie de ça? Un, on va voir qu'il y aura sûrement une part des États, donc des gouvernements, un pourcentage. Deuxièmement, il y a toute la structure de gestion, notamment on va aller sur les RAID, sur les CAFI, ça veut dire vous avez des structures complètement lourdes, avec du personnel expatrié, et donc c'est de l'emploi aussi pour le Nord. Et quand l'on fait l'autopsie des gestions antérieures de ces fonds, on arrive qu'en réalité sur l'argent qui arrive, ce n'est même pas 50% qui arrive en réalité pour les besoins de développement de nos pays. Finalement, ce sont les communautés qui vont être, par exemple pour les tourbières, bon bien sûr il y a les entreprises, il y a ceci où la loi va être exercée, mais les communautés, on leur dit de ne pas faire de la culture telle qu'elles font. Et donc il faut que ces communautés aient des compensations.
Merci M. Luc Loutala. Nous allons maintenant donner, n'est-ce pas, la parole aux auditeurs qui veulent donner leur point de vue dans cette émission. Monsieur Renaud Ngongo, vous allez réagir à la réflexion de cet auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo.
Rémi Lokonga depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. La déclaration du chef de l'État dans la COP 26 est à mon humble avis salutaire, car la RDC est un pays qui se présente comme une solution à la crise climatique mondiale, mais sa population vit dans une grande pauvreté. Il était plus que nécessaire que le président de la République puisse rappeler aux dirigeants du monde l'importance de notre pays sur les enjeux climatiques de l'air, pour que ces derniers puissent voir comment ils peuvent aider le Congo à jouir et protéger ses richesses. Pour protéger la réserve naturelle du pays, il faudrait penser comment réduire la pauvreté des populations locales en créant des activités qui puissent les empêcher à détruire ces forêts ou réserves. Il faudrait en outre leur inculquer une bonne pratique agricole et électrifier ces milliers pour réduire leur dépendance à la réserve.
Oui, Monsieur René Ngongo.
Je remercie l'auditeur de tout à l'heure parce que il fait une analyse très pertinente et profonde sur le discours du chef de l'État qui présente les potentialités. En même temps, il revient sur l'extrême pauvreté parce que s'il n'y a pas d'alternative, comme il a dit, pour empêcher l'utilisation des pratiques agricoles qui détruisent nos écosystèmes forestiers, notamment l'agriculture sur brûlis. Tant que cette communauté n'aura pas accès à l'énergie, elle va continuer à utiliser le bois énergie. C'est des menaces qui vont jouer en défaveur du climat. Et là, j'en profite pour dire à nos co-débatteurs, celui qui a dit qu'il mettait en doute la transition écologique parce que nous n'avons pas d'usine. Effectivement, là, si nous sommes classés parmi les pollueurs, ce n'est pas à cause de nos usines, c'est à cause de la déforestation avec des motifs, des moteurs, des causes de déforestation qui sont connus, notamment ce que je venais de dire, l'agriculture itinérante sur brûlis et l'utilisation des bois, de bois de chauffe, la braise. Tout ça font que la RDC perd annuellement beaucoup d'hectares de forêt, sans compter toutes les autres causes liées à l'exploitation non durable de nos ressources, qu'elles soient industrielles, mais surtout artisanales. Donc tout ça nécessite des moyens pour justement mettre en œuvre notre contribution déterminée au niveau national. Mais en même temps, pour arriver à mettre en œuvre cette contribution déterminée au niveau national, pour diminuer nos émissions en termes de 21%, en termes de projections envisagées, il faut des moyens. Et c'est là que les plaidoyers du chef de l'État tombent à propos, parce que il faut absolument que les engagements pris lors de l'accord de Paris, un des intervenants parlait de 100 milliards de dollars chaque année, mais on voit que ces pays du Nord tardent à mettre la main dans la poche. Et ce n'est pas de l'aumône que nous demandons. Hein, on l'a toujours dit, c'est un droit, parce que c'est un poumon qui joue un rôle pour la planète, et il faut que toute la planète contribue à la préservation de ce deuxième poumon que nous avons ici dans le bassin du Congo, et particulièrement en République démocratique du Congo.
Merci. Mais si aujourd'hui ces grandes puissances changeaient d'attitude, qu'elles réalisaient leurs promesses en donnant ces fonds qu'elles promettent aux pays du Sud, mais que cette problématique des répartitions de ces fonds continue à demeurer, comme l'a relevé M. Luc Loutala, vous pensez que cette stratégie pourrait être efficace, pourrait aider vraiment les populations, les communautés à pouvoir préserver l'environnement?
Je parle par exemple de notre contribution déterminée au niveau national. Et là, quatre axes qui ont été identifiés. Et dans chaque axe, je crois, les communautés se retrouvent. Quand on parle de l'axe énergie, si on augmente le taux de la desserte, ça a beaucoup d'impact, pas seulement sur l'environnement, mais sur la santé, sur l'éducation. Vous voyez tous ces enfants qui sont obligés de faire tous les travaux avant la tombée de la nuit, parce que les enfants ne peuvent pas étudier à la lumière, à dehors du solaire. Donc, ça a beaucoup d'impact sur l'éducation. Merci. Quand nous regardons l'aspect agriculture, hein, si on améliore les pratiques agricoles, ça va augmenter les rendements. Et c'est une justice distributive, parce que quand on augmente la production, les impacts sur la sécurité alimentaire, sur la santé, sur le développement de ces milieux sont évidents.
Merci.
La forêt joue un rôle important, on l'a dit. Cette forêt, c'est en même temps, nous la préservons pas seulement pour le monde entier, pour la planète, mais pour nous-mêmes. Toutes ces communautés qui dépendent directement ou indirectement de ces forêts bénéficient de la préservation de ces forêts. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de la conservation. C'est important parce que, regardez le nombre de touristes à travers le monde. Beaucoup paieraient cher pour venir passer des semaines dans nos forêts ou en dehors de toute pollution. Donc c'est important, ce travail de préservation, ça a les premiers bénéficiaires, nous l'avons toujours dit, c'est nous-mêmes d'abord.
Merci.
Et
merci.
Ensuite, c'est la communauté internationale. Donc, c'est important de pouvoir canaliser cet argent sur les axes prioritaires qui ont été déterminés. Évidemment, il faudrait qu'il y ait des respects des normes.
Merci.
Des normes dans l'exploitation de nos minerais, des ressources en pétrole, tout ça, c'est pour diminuer davantage
les
émissions de gaz à effet de serre.
Merci Jean Mangalibi. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Bukavu, au sud de Kivu.
C'est Jérémy Reng depuis Bukavu. La déclaration du président est fondée, car la RDC réellement c'est un pays solution. En théorie, mais la pratique a prouvé le contraire. Tant que ce sont les pollueurs et qui doivent encore réfléchir, le Congolais doit être acteur pour imposer une contrepartie de la protection de l'environnement et non attendre la bonne volonté des pays industrialisés. Quittons les effets d'annonce et soyons pragmatiques par la mise en place de l'application d'une feuille de route claire qui permettra à la RDC de bénéficier de ses droits et aux pays industrialisés ou d'autres parties prenantes de s'acquitter de ses obligations.
Monsieur Jean Mangalibi, cet auditeur de Bukavu vous a suivi, hein, il a bien suivi votre première intervention.
Oui, il y a aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est pratiquement le 26e sommet. Et que nous allons nous rendre compte qu'au niveau de la RDC, qui depuis tout ce temps était le deuxième réserve stratégique mondiale, et qui n'a jamais eu de retombées positives face aux promesses faites par les pays qu'on dit entre guillemets grande puissance, entre guillemets. Parce qu'en réalité, ce sont les pays les plus endettés du monde. Aujourd'hui, avec la pandémie de Covid, on va se rendre compte que leur économie continue à être affaiblie. C'est pour cela, moi, je vais insister. Il est grand temps que le Congo a...
Allô, Jean Mangalibi, apparemment, on vient de le perdre. On va essayer, la réalisation va essayer de l'appeler. Monsieur Luc Loutala, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Kolozi dans les Lualaba.
Moi, c'est Adonis Oswald Kamengwa. Je vous appelle à partir de Kolozi, province du Lualaba. Je salue le discours du président de la République qui met en valeur les richesses naturelles du pays, mais cependant, je crains que les multiples partenariats et multiples investisseurs internationaux invités pêle-mêle au pays puissent entrer dans une guerre d'intérêts déloyaux entre eux afin de conquérir plus de privilèges d'exploitation que les autres, ce qui transformera la RDC en un champ de bataille pour l'Occident et mettre en péril les institutions de la République. Aucun exemple typique ne prouve qu'un pays africain s'est développé avec les aides reçues de l'Occident. Et la RDC ne sera pas un spécimen pour autant. Donc, prenez besoin de concentrer toute la vision du pays dehors pour croire au vrai développement qui doit être un made in Congo avec les énergies nationales d'abord et suppléé par la suite par les auxiliaires occidentaux pour sa croissance et sa rigidité et le maintien le plus longtemps possible.
Monsieur Luc Loutala.
Oui, mais très intéressant la réflexion d'Adonis. Elle soulève beaucoup plus de questions. Hein. Donc, elle nous permet de rappeler quelque chose qui est celle-ci. Malgré le beau discours que nous avons eu, et il faut le saluer, j'ai salué tout à l'heure l'offensif, la posture offensive de notre gouvernement, hein, en allant, la communication était parfaite, le poids diplomatique était louable, le discours était bon. Il demeure ceci, hein, si on nous pose à tous la question, supposons que le gouvernement ait gagné aujourd'hui 30 milliards de dollars, qu'est-ce que le gouvernement va faire de ça? Alors, on va nous dire, on va financer la CDN, ça veut dire la contribution pays, et puis après on va financer le CAFI, comme on a entendu l'accord avec CAFI, et puis après ça va être le RAID, ça va être... Mais la réponse, elle est la même. Et c'est pour compléter ce que disait René Ngongo, que j'apprécie beaucoup, qui est un grand travailleur, un grand acteur, hein. La transition énergétique, comme toutes les autres solutions, ne sont des solutions climatiques que lorsque elles amènent les communautés à la résilience. Donc, à ce que les communautés deviennent autonomes, durables, résilientes, et que, à partir de ça, elles ne peuvent plus s'attaquer aux ressources. Et donc, il y a tout un problème d'approche. Les financements qui ont été donnés non seulement ont été mal répartis, on ne sait pas vraiment comment cela a été fait. Deuxièmement, on n'a pas eu de modèle de développement. Il n'y a aucune communauté. Hein, les années passées, il n'y a pas une seule communauté qu'on va nous dire. On a réussi à avoir deux, trois communautés. Ces communautés-là ont maintenant atteint, ça veut dire, les communautés sont passées au minimum à 51% du développement sur le plan social, économique, écologique et culturel, parce que vous savez que ce sont là les standards de développement durable. Et donc, quel que soit l'argent qu'on va avoir, il y a d'abord ce niveau-là. Bon, il faudrait que nous définissions l'approche et qu'est-ce que nous voulons faire, quel est le rôle de communauté et quel est le modèle de développement que nous voulons faire. Deuxièmement, pour revenir à l'autre préoccupation des Adonis, bon, je pense que on a vu par exemple au niveau de la Chine, pendant qu'on était pendant la COP, la Chine a décidé de continuer à financer ses industries de charbon pour revenir à son utilisation énergétique, alors qu'on sait que la Chine est très très avancée avec les solaires. Nous avons ici des panneaux solaires, des Chinois et consorts. Bon. Ça veut dire que les pays sont quand même réglementés. Je pense que c'est des négociations de haut niveau et que là, il n'y a pas la guerre, hein, parce qu'on n'a que deux langages. On a le langage diplomatique, on a le langage de la guerre. Et je pense qu'à ce moment ici, notre niveau de diplomatie est très élevé. Et il y a le code minier, il y a ceci, les États sont respectés. Je ne vois pas tous les États du monde venir tomber sur la RDC comme des gangs et se dire qu'ils vont se dépêcher. Mais je crois qu'au contraire, il y a des efforts qui vont être faits pour réglementer les secteurs miniers. Mais dans tout ça, il reste la question de base. Il y a nos minéraux qui sont émettrices, qui sont émetteurs de CO2. Il va falloir les réguler. Bon, les transformer peut-être localement, mais il reste toute la question de financement.
Globalement,
la RDC n'est pas allée avec un montant du financement de mise à contribution de sa réserve. Ça, c'est des étapes à venir. Par exemple, la RDC est allée comme pays solution, mais on n'a pas dit, écoutez, pour que la RDC soit globalement pays solution, pour que nos tourbières soient conservées totalement, pour que la forêt du bassin de Congo et la RDC à 60% de la forêt du bassin de Congo, nous avons autour de 600 espèces d'arbres et consorts, mais on n'est pas allé avec un chiffre en disant, voilà, pour que nous, on contribue au changement climatique. Nous voulons, par exemple, dans les 5-10 années à venir, arriver à développer autant de communautés, les amener à la résilience et à faire, il n'y a pas un plan, en fait, de résilience et d'adaptation au changement climatique comme tel, ce qui laisse tout un problème, qui laisse le problème entier de la planification du développement vers la marche au changement climatique.
Un problème de planification, comme vous le dites. Et nous sommes à la fin de l'émission, malheureusement. Et comment vous entrevoyez, M. Luc Lutala, comment vous entrevoyez l'évolution de cette transition écologique dans laquelle nous sommes impliqués, nous, la RDC, et à l'horizon 2030? Voilà, apparemment, nous avons perdu M. Luc Lutala. Jean Mangalibi, est-ce que vous êtes là? Voilà, et nous sommes à la fin de l'émission, on va commencer à conclure. Hein. Comment vous entrevoyez l'évolution de cette transition écologique à l'horizon 2030? Ça sera votre conclusion.
Il faut parler de l'évolution de la transition. Bon, on va se rendre compte qu'aujourd'hui, ce qu'on a, on traite comme une population à milliers irréguliers. Et ils ont arrivé quand même, malgré tout ce qu'on dit, à préserver ou à conserver mieux leur environnement avant que l'entrée de la civilisation. Je crois que face à tout cela, prenons le cas pendant où il y avait plus d'activité avec la pandémie, on a vu même au niveau des abords des océans, les requins venir parce que il y avait plus d'hommes. Donc, aujourd'hui, il est grand temps que chaque nation, par rapport à ce qu'il a comme problème, y réfléchit avant d'attendre à ce que les autres donnent. Parce que la Chine, qu'on le veuille ou pas, il a des routes où il y a des panneaux solaires, mais il reste le plus grand pollueur. Il va faire semblant de donner, mais or, nous, avec tout ce que nous avons comme réserve, si notre président, notre ministre de l'Environnement, le ministre de la décentralisation, le ministre de l'Agriculture, se mettent ensemble, ils réfléchissent sur la manière. Parce que tant qu'aujourd'hui, je prends le cas de Maïndombé, j'y insiste, ils font des recettes quand les commerçants viennent avec de la braise pour dire que la province de Maïndomi jusqu'à aujourd'hui favorise les déboisements et la déforestation, excusez-moi. Or, nous savons très bien que si il y a des meilleures alternatives, aujourd'hui quand on parle de la chasse, moi qui vous parle, j'ai eu à élever les antilopes des marais pour vous dire qu'il y a possibilité que l'homme, il peut les bien accompagner.
Jean Galibi, on est presque à la fin de l'émission. Hein? Est-ce que vous pouvez vous résumer? On est à la fin de l'émission.
Excusez-moi. Donc, s'il y a moyen que nous ayons un plan par rapport à notre pays, en sachant que si le Congo gère bien son environnement, ça va être intéressant pour le reste du pays.
Merci.
Ça va être une bonne chose.
Merci. Monsieur René Ngongo, votre conclusion aussi, et comment vous entrevoyez l'évolution de cette transition écologique à l'horizon 2030? Est-ce que les États qui ont pris des engagements cette fois-ci, ils vont respecter leurs engagements pour que à l'horizon 2030, les objectifs soient atteints?
Oui, merci. C'est effectivement l'objectif de cette COP pour aller dans le concret, pour voir, on a pris des engagements en 2015, où est-ce qu'on en est avec ces engagements, parce que l'objectif final, c'est de réduire les émissions, parce que, et l'étude de GIEC, on n'en a pas malheureusement beaucoup parlé, le groupe international d'experts sur le climat, a montré les dangers que court la planète si nous maintenons ces rythmes d'émissions qui aggravent les phénomènes climatiques. Donc c'est important, cette prise de conscience. Nous venons de marquer un pas avec cette campagne dirigée de mettre par les premiers citoyens d'entre nous, j'ai cité les chefs de l'État avec la campagne RDC Pays Solutions, mais le travail commence maintenant. C'est vrai qu'on a salué l'élévation de ce ministère de l'Environnement comme vice-primature, c'est déjà un bon signe, mais tout ce qu'on a pris comme engagement, notamment 1 milliard d'arbres d'ici 2023, c'est des engagements qu'il faut mettre en œuvre à travers les provinces, à travers les territoires, parce que les forêts et toutes ces ressources se retrouvent dans nos territoires. Ça, on doit décentraliser cette lutte contre le changement climatique pour mettre en œuvre les 4 axes que j'avais développés tout à l'heure. Donc,
merci.
Pour moi, l'espace est encore permis. La RDC a intérêt à maintenir son capital naturel pour pouvoir jouer un rôle important dans les conseils des nations.
Merci.
En préservant nos forêts, nos minéraux qui vont jouer un rôle capital dans la transition énergétique et écologique.
Merci, M. Luc Loutala. Est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis revenu.
Voilà, et comment vous entrevoyez? Ça sera sur votre conclusion parce que nous sommes à la fin de l'émission. Hein. Soyez concis. Comment vous entrevoyez l'évolution de cette transition écologique?
Et puis il y a le défi de la rentabilité, défi de l'approche. Tant que l'approche de financement de l'action est sectorielle, on peut parler transition écologique, on peut dire tout ce que l'on veut, ça va échouer. Mais ça va échouer, ça ne va pas inverser les courbes. La raison est tout à fait simple. Les pays développés, industrialisés, travaillent sur le vecteur sectoriel qui conduit à l'entrepreneuriat et donc au bénéfice. Et celui qui poursuit le bénéfice, poursuit le bénéfice. Donc il faut changer d'approche. Il faut aller de l'approche sectorielle à l'approche holistique. C'est que d'ailleurs les Nations Unies recommandent, mais que personne n'applique, hein, entre nous, soit dit en passant. Deux. Et donc, nous travaillons évidemment sur cette thématique et il y a l'approche 4D qui est celle d'accompagnement des communautés à développer leur communauté en tant que des entreprises sociales qu'on appelle des éco-villages ou des éco-entités, ce qui permet aux communautés d'être durables, soutenables, riches et à préserver la nature. Et le troisième aspect, tant que l'argent qui vient est dispersé, saupoudré avant d'arriver aux communautés, et qu'il y a des relais, si vous voulez, des touches de poches trouées, vous convenez avec moi qu'il est totalement évident que
merci.
Nous sommes en train de rêver.
Merci.
Dans tout le cas, on a encore ces 3 facteurs, financement, approche, et puis il va de soi, gestion, hein, donc transparence par rapport. Il demeure ma conviction que tant que l'univers, tant que l'humanité aujourd'hui n'aura pas mis les communautés au cœur de l'action de développement et de l'action climatique, on va continuer à chanter une chanson qui ne va pas finir. Hein.
Merci, merci, merci à vous, Monsieur René Ngongo, Monsieur Jean Mangalibi et Monsieur Luc Loutala d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Alain Ngoy qui était à la technique, à Kelly Nkoute et Donald Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sebujangwe, à la présentation Guy Maté. Merci encore une fois de plus, bonne suite de programme sur Radio Capitole.